Je voudrais vous parler aujourd'hui à partir du livre de l'Ecclésiaste sur on va partager une réflexion sur comment vivre avec Dieu dans un monde qui peut être frustrant. Et en fait, au départ, j'étais prévu que je fasse un message sur le premier dimanche de janvier, et donc l'idée était, voilà, je me dis, premier dimanche de janvier, on peut faire quelque chose sur la nouvelle année, un petit peu, les bonnes résolutions, les vœux, tout ça. Et finalement, en réfléchissant là-dessus, je me suis dit, est-ce que, voilà, il y a toujours un côté, je trouve, un peu ambivalent dans ces choses-là, dans ces moments, que ce soit dans les vœux qu'on se formule, soit de manière personnelle, soit aussi beaucoup de manière professionnelle, il y a toujours un petit côté un peu ambivalent entre quelque chose qui a quand même cet aspect chaleureux et où on a toujours, je pense, en tant qu'humain, se dire, il y a quelque chose qui repart et donc on veut mettre de l'espoir là-dedans. Et puis en même temps, des choses où on se rend compte que d'une année à l'autre, nos bonnes résolutions sont un peu les mêmes. Donc là, c'est ce qui est marqué en haut, c'est mes bonnes résolutions de 2023, c'est de réaliser les bonnes résolutions de 2022 que je n'ai pas faites. Il y a aussi toujours un peu de ce côté, et là c'est un dessin de Plantu ici. Alors c'était justement, c'est un dessin de l'année dernière avec Zelensky, Poutine et tout, qui se disent est-ce qu'on y croit pendant 30 secondes, 10 secondes de souhaiter une bonne année, et puis et en fait j'ai trouvé ça d'autant plus frappant que en 2024 on aurait pu rajouter encore d'autres protagonistes à ces guerres, à ces choses qui se reproduisent. Et donc il y a un peu cette ambivalence entre l'espoir d'une nouvelle étape de changement et puis la reproduction des choses qui ne vont pas vraiment dans le bon sens. Et peut-être que aussi en tant que chrétien, on peut aussi avoir cette ambivalence entre là on a redit beaucoup ce matin qu'on a la présence de Dieu avec nous, la puissance de l'Esprit. Puis il y a aussi ce que la Bible nous dit du cœur de l'homme, de mon cœur, du cœur du péché, de la trajectoire aussi de l'humanité sans Dieu. Donc est-ce qu'il faut désespérer et quel regard porter sur une nouvelle année qui n'est pas si nouvelle, et finalement comment la Bible nous éclaire-t-elle par rapport à ça? Le monde a besoin de sagesse. Paul nous dit que la sagesse humaine elle rate quelque chose, mais la Bible elle renonce pas pour autant à la sagesse. Il y a des livres de sagesse, il y a des livres de sagesse qui s'interrogent sur la sagesse, et puis et notamment sur la frustration du monde. Donc, vous l'avez deviné, donc je commence par lire quelques versets de ce livre de l'Ecclésiaste au début, qui vont plutôt dans le sens un peu de cette frustration du monde. Je pense au verset 9 à 14. « Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si on dit à propos de quelque chose, regarde, ceci c'est nouveau, en réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui était ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, j'ai appliqué mon cœur à rechercher, à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. » Alors ce livre, c'est un regard réaliste, parfois un peu sombre de la Bible, je trouve, sur la frustration du monde. L'Ecclésiaste, il fait ce diagnostic nourri, imagé, vécu. Et on va y revenir, mais je pense que c'est un livre qui ne nie pas qu'il existe dans notre vie sur Terre des choses qui attirent, des choses, des projets à mener, des choses à explorer. Et on verra, pour moi, ce n'est pas forcément un regard complètement catastrophique et négatif sur toute activité humaine, sur toute aspiration humaine, mais c'est, je trouve, un livre qui dissèque un peu les impasses, les tâches, ce qui tord le sens, ce qui gâche la fin. C'est un récit, vraiment, je trouve, de la frustration du monde. Alors, dans un sens, peut-être c'est parce que je deviens un peu trop vieux ou trop fataliste, trop triste, voilà. Mais c'est difficile de lui donner complètement tort. Est-ce qu'on n'a pas aussi souvent dans nos engagements, dans nos projets, des moments où on a ces perceptions un peu dures ou un peu amères ou un peu de déception, quand la différence entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est, entre ce qu'on voudrait accomplir et ce qui se passe, entre ce qu'on attend des autres et ce qu'ils peuvent vraiment nous donner. Il y a cela. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Bible là-dessus? Et surtout, qu'est-ce qu'elle nous dit de comment vivre cela avec Dieu et sous le regard de Dieu? C'est ça que je vous propose de dérouler avec en quatre points. Quel regard porter donc sur un monde frustrant? Et Dieu dans tout ça? Et du coup, comment vivre avec lui dans le monde tel qu'il est? Et puis, je conclurai en disant que, au-delà de ce livre de l'Ecclésiaste et peut-être des choses qu'il y a comme des petites projections et qui arrivent et qui se dévoilent complètement après, c'est de terminer sur le fait que la croix et le projet de Dieu en Jésus est aussi et surtout est la réponse à la frustration du monde. Alors, quel regard porter sur un monde frustrant? Donc, je vais aller relativement vite pour ceux que ça intéresse. Il y a aussi Florent Varac a fait une étude un peu suivie sur le livre d'Ecclésiaste assez, assez longue où il développe un peu les différentes justement les différentes un peu impasses ou les différents thèmes qu'aborde le livre. Et donc il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans l'Ecclésiaste et qui à chaque fois aboutissent à mettre en avant les limites ou les frustrations. Alors c'est vrai à propos de la sagesse, alors là je lis à propos de la sagesse, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse mais aussi la folie et la stupidité, j'ai découvert que cela aussi, cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Donc, si on pense que l'auteur est Salomon avec toute la sagesse qu'il avait eue, il nous dit, bah oui, je suis rentré là-dedans, je suis allé au bout de cette sagesse, j'ai essayé de comprendre des choses, et finalement la compréhension et la connaissance lui a amené aussi beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance par rapport à ce qu'il découvrait. C'est des proches qui disaient que l'intelligence, c'est l'outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. C'est exactement, hein, je ne pense pas qu'il est pris dans l'Ecclésiaste, mais c'est exactement ça, je trouve, qu'il y a ici. C'est cette idée de dire que finalement, si on plonge dans la façon dont marche un monde qui est tordu, on y reviendra, bah, finalement, cette connaissance-là, c'est une connaissance aussi qui amène plutôt de la souffrance, ou en tout cas qui n'offre pas en tant que telle une voie. Donc je vais aller assez vite, hein. Chaque fois on pourrait en dire beaucoup plus, mais c'est pas le thème. Je veux plutôt après passer du temps sur comment Dieu se positionne, donc je vais aller plutôt vite sur ces différents thèmes, mais vous pourrez, si ça vous intéresse, enfin franchement c'est vraiment intéressant à regarder à la fois en détail la pertinence, la lucidité du regard. Alors c'est vrai aussi sur les richesses et les possessions, chapitre 2, versets 8 à 11. « J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Et puis, c'est un thème qui reprend au chapitre 5. « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. » Je vous ai mis à côté, pour ceux qui ont vu, il y a une série sur Netflix qui reprend les écoutes qui ont été faites dans l'affaire Bettencourt. Bon, je ne vous dis pas que c'est le truc le plus édifiant du monde à regarder. Mais c'est quand même très très frappant en fait, un des constats principaux, c'est de montrer la solitude et l'ennui de cette femme en fait, qui était la femme la plus riche du monde, et qui en fait était un peu enfermée dans ce truc-là. Et une des choses qui ressort incroyablement, c'est que effectivement, pour ça me faisait penser par rapport, quand les biens sont nombreux, ceux qui le mangent le sont aussi, d'en fait, quelqu'un qui la connaissait bien disait, mais en fait, toute leur vie, ils ont vécu avec des gens autour d'eux. C'était tellement énorme, ces richesses, c'était tellement attirant qu'ils étaient tout le temps entourés de gens qui, en fait, voulaient en profiter, ou en tout cas, ils ne pouvaient jamais être sûrs que celui qui était à côté d'eux n'était pas là pour en profiter. Et très souvent, c'était le cas. Et donc, ils faisaient le constat de cette immense solitude et de cette distance que ça mettait par rapport au monde, en fait. C'était assez, franchement, assez frappant, parce que, voilà, des fois, on dit, oui, c'est bien gentil, l'argent ne fait pas le bonheur, ça, c'est, on dit ça pour... voilà. Mais là, c'était vraiment frappant. Et je pense que ce qui est intéressant, voilà, Salomon, il a eu toutes ces richesses-là, et vous voyez qu'il dit, et il dit, voilà, mais vous n'en serez jamais rassasiés, et puis il y a toutes ces choses qui vont venir à côté de vous et qui vont faire que ça ne pourra pas, en tant que tel, vous offrir ces solutions-là. Et puis, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi beaucoup dans l'Ecclésiaste cette idée du temps, de dire, mais je vais trouver à un moment donné quelque chose, je vais m'investir là-dedans, oui, ok. Mais en fait, il y a quelque chose de profondément perturbant quand même, qui est la finitude, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, cela va finir. Alors, c'est la finitude dans le temps. Au chapitre 2, c'est à propos de ce qui fait, à propos de la succession, en fait. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée, c'est un grand malheur. Alors là aussi, vous voyez que justement, ceux qui ont beaucoup de la question de leur succession devient quelque chose d'extrêmement important. Pas seulement au niveau financier, mais aussi qui va prendre mon projet, en fait, qui va continuer mon œuvre. Est-ce qu'il va le faire dans le sens où j'aurais voulu, etc. Et donc Salomon a cette frustration-là, de dire, bah oui, j'ai fait tout ça, mais à un moment donné, ça, bah, je serai plus là pour tout faire, je suis pas là pour tout faire. Et ça, est-ce que ça va? Et si ça retombe, en fait, comme un soufflet, finalement, qu'est-ce que j'aurais fait? Quel aurait été le sens de mon travail? Et puis plus largement, la frustration de la finitude, évidemment, c'est la frustration de la mort, in fine, qui attend l'homme. Ecclésiaste chapitre 3, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques, ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée, tout va au même endroit, tout a été fait à partir de la poussière, et tout retourne à la poussière. Un peu plus loin, au chapitre 8... Pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles, mais il y a un malheur qui accable l'homme, il ne sait pas ce qui arrivera. Et qui lui annoncera comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. In fine, il y a cette mort qui nous attend en tant qu'homme, la fin de cette vie, et c'est quelque chose qui va terminer. Premièrement, et deuxièmement, quelque chose dont on n'est absolument pas maître et sur lequel on ne peut absolument rien faire. Et évidemment, qui du coup, quand il revoit tout ce qui va être fait avant, bah, cet horizon, cette finitude-là, cette mort qui l'attend, sur laquelle il n'y a aucun moyen, bah, elle dégonfle aussi complètement peut-être une impression de contrôle, une impression de puissance, une impression de réussite qu'on aimerait mettre derrière nos projets, derrière nos réussites. Alors ça, peut-être que c'est des choses, notamment, je pense que c'est un peu un sujet de vieux, là, parce qu'on se dit, voilà, on parle de choses très très loin, etc. Mais je pense que dans la frustration et du monde, on la vit assez vite, et on peut la vivre à tous les âges. Et par exemple, je trouvais ça intéressant, j'avais pas en tête ce verset dans ce chapitre 4, j'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise au sens dans un projet, mais on pourrait dire dans une entreprise, ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à poursuivre le vent. Alors évidemment, est-ce que c'est toujours le cas pour tout le monde? Enfin, il faut, c'est des généralités qui ne veulent pas dire que tout moment et toute personne sont comme ça. Mais je pense qu'on peut vivre, enfin, moi, que si à tous les âges, etc., et ça commence parfois très tôt chez les enfants, que la jalousie, parfois, est souvent une motivation extrêmement forte. On se rend compte que des fois, des gens mettent une énergie folle, et je suis capable, juste pour faire aussi bien que l'autre, ou faire mieux que l'autre, ou être mieux que l'autre, en fait. Il dit, mais c'est quoi? Enfin, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ces motivations-là, c'est quoi cette vanité? Et puis du coup aussi ce vide, en fait, derrière ce type de motivation. Et puis on sait qu'aussi, parce qu'il y a cette motivation-là, bah, ça vient aussi à des comportements qui sont des comportements où les uns oppriment les autres, et il y a aussi beaucoup dans la Bible et dans l'Ecclésiaste, la frustration de l'injustice. Alors je lis deux exemples dans le livre de l'Ecclésiaste, d'abord au chapitre 8. Tout cela, je l'ai vu et j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. J'ai vu des méchants être enterrés et entrer dans leur repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi, c'est de la fumée. Parce qu'une sentence contre des mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. Donc on reviendra sur cette crainte et sur ce bonheur, mais voyez cette frustration d'injustice, voilà, on voit bien que chacun n'a pas toujours dans ce qu'on vit partout autour de nous, ce qu'il mériterait d'avoir, et que parfois les mauvaises motivations ont des très belles récompenses. un peu plus loin dans le même chapitre, hein, il y a une réalité qui n'est que fumée, qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants et des méchants qui sont traités d'après la manière des justes. Je dis que cela aussi, c'est de la fumée. Donc, voilà, ce livre, là je suis allé rapidement, il y a d'autres thèmes aussi, mais voyez, déploie en fait, Salomon déploie tout un, enfin l'auteur déploie tout un ensemble de regards sur finalement la frustration du monde. Et justement, je voudrais revenir un petit peu, si on essaye un peu de globaliser, enfin d'agréger, quel regard porter sur le monde d'abord à travers, enfin quel regard porte Salomon sur le monde. Je pense que là, je vous ai mis ce que ce n'est pas. Pour moi, ce n'est pas un regard qui est un regard de condamnation systématique. C'est-à-dire que on ne va pas dire, voilà, non, il faut rien regarder, de la joie, des plaisirs, des choses, des projets, rien du tout. Là, là, regardons pas ça, ça c'est pas son Dieu. C'est pas ça. Il n'y a pas de condamnation systématique du fait même d'agir. Il me semble pas. Ce n'est pas non plus, même si là, ça, pour l'instant, avec ce que j'ai vu, ça pourrait paraître ça, mais on va voir que ça n'est pas non plus du fatalisme. C'est-à-dire que l'auteur ne dit pas, bah, du coup, ne faites plus rien, bougez plus, attendons la fin. Ce n'est pas, et c'est peut-être encore plus important, ce n'est pas du cynisme, parce que ça peut être un retour. Je pense qu'aujourd'hui, et je trouve ça assez frappant et terriblement, du coup, ça me fait beaucoup de peine chez ceux chez qui on sent vraiment que finalement, toute cette injustice ou toute cette frustration les a tellement atteints qu'en fait ils basculent dans un cynisme vraiment, dans un cynisme au sens ils savent ce qui ne va pas pour eux, pour les autres, etc. Mais ils disent de toute façon on ne pourra rien y faire et donc finalement soit jouons le jeu et puis on verra bien ce qui se passe et qui sont dans cette peine là ce cynisme là. Pour moi, c'est vraiment une des pires réactions qu'on peut avoir en fait face à cette frustration du monde, parce qu'on peut s'enfermer là-dedans, faire quelque chose qui est négatif pour nous et pour les autres, et qui est pas tellement loin de ce que Dieu voudrait qu'on vive en fait. Et donc, je pense pas que l'auteur ici est un peu cyniste. Et ce n'est pas du recroquevillement, on va y revenir, mais pour moi, c'est pas du recroquevillement. Alors, qu'est-ce que c'est ce regard-là sur le monde ? Bah, ce que je trouve important, c'est que il y a dans la Bible ce livre-là. Vous savez, beaucoup ont dit, bah, c'est quand même un peu bizarre ce livre, on ne parle pas beaucoup de Dieu, très négatif, etc. Ben, je pense que la Bible est réaliste. La Bible est réaliste sur plein de choses. Elle est réaliste sur l'homme, elle est réaliste. Et là, je pense que c'est un livre de sagesse réaliste sur le monde. Et c'est utile parce que du coup, ça nous dit, ben, attention en fait, il y a des choses qui brillent. Mais c'est pas tout à fait ce que vous croyez. Et puis, moi, Dieu, je vois le monde et je vois le monde tel qu'il est, en fait. Dieu n'est pas bisounours. Il voit le monde tel qu'il est. Il voit ce qui se passe. Il nous le dit. Et donc, quelque part, ça nous incite à ne pas être séduit sans recul, en tout cas. Et justement, c'est le deuxième point, pour moi, est sans doute le plus important. Enfin, en tout cas, c'est celui qui fait bascule entre le premier et le troisième. C'est, il me semble que ce livre, il nous appelle à prendre du recul par rapport à tout un ensemble de choses que Salomon a vécu, que l'auteur a vécu, dont il a profité, il nous dit, en fait, attention, vous êtes obligé de prendre une certaine distance par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des projets, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gagner de l'argent, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas chercher de la joie, etc., mais, ou des plaisirs, en gros, je pense, c'est de dire, mais vous ne pouvez pas avoir comme aspiration exclusive ou comme aspiration excessive, c'est-à-dire en attendre trop, pas d'aspiration exclusive ou excessive par rapport à ce que peuvent offrir comme promesse tous les projets humains, tout ce qu'on peut faire sur la Terre. En fait. Prenez ce recul-là. Et ça, je pense que c'est absolument nécessaire parce que par contre, je pense qu'on le vit tous dans différentes sphères, etc., mais l'aspiration de la réussite sociale, de l'argent, évidemment, mais aussi de la séduction personnelle, c'est des choses extrêmement puissantes. Enfin, c'est en termes d'adrénaline ou d'attrait. Et donc, je trouve que c'est ça que nous dire attention à ça. À un moment donné, vous devez en fait vous lutter pour prendre de la distance par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est ça qui veut nous dire. Bah, moi, je vous dis, prenez de la distance. J'ai vécu ça, j'ai fait ça. Et prenez de la distance ou prenez un certain recul. Et du coup, quelque chose aussi qui est lié, c'est de dire. Bah, Si on se dit que ces aspirations-là, elles ne peuvent pas être exclusives et qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'elles ne soient pas excessives, bah alors ça, il nous dit aussi aspirer à autre chose. aspirer à... En fait, toutes ces frustrations-là, elles nous disent que l'homme a besoin de Dieu, en fait, qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. Et donc, du coup, Dieu dans tout ça. Dieu dans tout ça. Et d'abord, vraiment, ce que le livre nous dit, alors évidemment, là, je reste l'Ecclésiaste, hein, parce que là, ça ouvrirait énormément de sujets, mais je vais rester dans le livre Ecclésiaste sur qu'est-ce qu'on a comme pointe, qu'est-ce que je vois comme pointe quant à comment Dieu se positionne par rapport à tout ça. Et puis après, on basculera plutôt dans le troisième point sur. Qu'est-ce que le livre nous dit de comment on peut vivre, nous, avec Dieu, dans un monde tel qu'il est décrit. Alors, pour ce qui est du positionnement de Dieu, je vous propose d'abord de réfléchir sur, finalement, la façon dont Dieu est souverain. Et ça, donc, prendre un passage dans le chapitre 3, il y en aurait peut-être d'autres, mais au moins, ça a l'avantage d'être... Un seul bloc, donc chapitre 3 d'Ecclésiaste, je lis des versets 10 à 15. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Et j'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir, à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit, prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Me semble que dans ce verset, mais aussi à d'autres endroits du livre, on voit trois choses qui sont très importantes à rappeler quant à ce que Dieu est. D'abord, Dieu est souverain. Donc là, en gros, correspondance des couleurs. Donc tout ce qui est en bleu, ça correspond au fait que Dieu soit souverain. Donc vous voyez, Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Extrêmement important que dans ce temps qui semble... Il y a d'autres choses, il y a beaucoup de choses dans l'Ecclésiaste sur le temps, à la fois le fait qu'il y a un temps pour ci, un temps pour ça, etc., puis le fait que le temps s'échappe. Et là, il y a cette pointe. Dieu fait toutes les choses au moment où il le veut. L'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Et le fait que Dieu agisse de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Dieu est souverain. Dans ce monde qui paraît comme ça, fumé, un peu évanescent, etc., il me dit, ben oui, mais Dieu, il a le moment où il veut intervenir, il a le début et il a la fin. Et il fait tout cela pour qu'à un moment donné, l'homme lève la tête de ses projets dans lesquels il se perd ou dans lesquels il s'illusionne pour reconnaître Dieu et avoir de la crainte devant lui. Dieu est souverain. Deuxièmement, Dieu veut le bien de l'homme. C'est aussi très présent. Dieu fait toutes choses belles. C'est incroyable. Vous voyez, dans le même verset, il est fait au moment voulu et il fait toutes choses belles. Toute chose belle au moment voulu. Vous voyez comment la souveraineté et la bonté de Dieu se retrouvent là dans ce verset. Et il met dans leur cœur la pensée de l'éternité. Vous voyez, on voit cette idée que c'est pas seulement que Dieu nous a fait avec un logiciel où il a mis quelques lignes de code avec insert God, quoi. Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Je trouve que dans... Bien sûr, c'est la poésie de Dieu, mais voyez comment Dieu veut parler au cœur. Tu l'as dit à Alain dans ta prière ce matin, il veut parler à notre cœur, il veut mettre dans notre cœur la pensée d'éternité. Et puis voilà, on va y revenir, mais Dieu a en tête du bonheur pour nous. Leur bonheur, il consiste à se réjouir, et c'est un cadeau de Dieu. Dieu donne des choses. Okay? C'est là où je disais tout à l'heure, on n'est pas dans une vision complètement catastrophiste et misérabiliste du monde. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Et tout ça est donné par Dieu qui veut le bien de l'homme. Et puis, troisième chose extrêmement importante, je pense que j'y reviendrai à la fin, parce que je pense que c'est aussi la façon dont on peut comprendre l'articulation aussi entre ce constat et ce que Dieu nous dit comme promesse. Dieu pense le projet, la destinée de l'homme à l'échelle de l'éternité. Il est à l'échelle de l'éternité. Et ça, c'est vraiment. Le point clé, c'est qu'on n'a pas la même échelle, encore et toujours. Et là, voilà, on l'a dit, hein, il a mis la pensée de l'éternité, ce que Dieu fait durera toujours. On reviendra sur cette idée, mais elle est absolument centrale. Donc, ça, c'est un petit peu la nature de Dieu, quelque part. Dieu est souverain, Dieu est bon, Dieu est éternel, vous voyez, on le retrouve là. Et puis une réflexion un peu plus par rapport au positionnement de Dieu dans tout ça, je trouve que ce qui ressort quand même de tout ça, c'est de dire, mais pourquoi en fait toutes ces finitudes, toutes ces frustrations, etc., mais pourquoi il y a ça en fait? Pourquoi tout ça est... C'est derrière la question de la souffrance. Souvent, la question de la souffrance, on la voit comme des événements extrêmes, négatifs, mais je trouve que la question de la frustration, elle peut nous toucher même quand il ne se passe pas des choses énormes, horribles dans notre vie. Mais cette question de la frustration, de la joie qui n'est pas complète, etc., pourquoi ça? Et alors, je vous propose trois versets qui m'ont fait un peu réfléchir, parce qu'ils ne sont pas évidents à articuler en première lecture. D'ailleurs, je vais proposer une piste, mais je ne prétends pas du tout qu'elle soit parfaite ou complète. Donc, au chapitre 7, l'auteur nous dit « Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. » Donc, Dieu a créé les choses droites et belles, okay, et eux ont cherché beaucoup de détours. Et je continue, je reviens plus en arrière, mais au premier chapitre, voilà ce qui est dit. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, j'ai constaté que tout n'est qu'au fumée et revient à poursuivre le vent. » Et il y a cette phrase « Ce qui est courbé ne peut pas se redresser, ce qui manque ne peut pas être compté. » Je trouve que c'est très très fort, ce qui est courbé. Vous voyez, le monde est moi, tordu, quoi. Il y a quelque chose qui est tordu, qui ne peut pas redresser. Ça ne marche pas, quoi. Je n'arrive pas à remettre, le petit taquet, là, et ça ne marche pas, du coup. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Là, on a l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé de l'extérieur. Et puis, dans le chapitre 7, cette phrase qui peut paraître étonnante, « Regarde ce que Dieu a fait, qui pourra redresser ce qu'il a courbé ?»« Le jour du bonheur soit heureux, le jour du malheur réfléchi. » Dieu a fait un lent comme l'autre afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Donc, bien sûr, ça, la première partie est assez simple. Dieu a créé les choses droites et belles et nous, on s'est perdus. Et nous, on a courbé, quoi. On dit, c'est nous qui avons tordu, en fait, quelque part. Okay, et ils ont cherché beaucoup de détours. Mais en même temps, après, il y a cette phrase, comme si c'était Dieu qui avait courbé. Vous voyez, on est un peu dans cette sorte d'ambivalence. Alors, je donne juste une pensée qui m'est venue. Je ne dis pas que c'est forcément la seule interprétation possible de ce texte. Mais ça m'a frappé. Imaginez que voilà, Dieu nous avait mis sur un chemin qui était un chemin droit. Okay. Et il dit, nous, on a fait beaucoup de détours. Quoi. On a fait beaucoup de détours parce qu'on s'est perdu volontairement, en fait. Hein. Ils ont cherché beaucoup de détours. Vous savez, c'est pas un détour involontaire. Hein. Je veux aller ailleurs, etc. Et donc, on courbe. Le chemin est tordu, quelque part. Ok. Et ça, c'est pas possible. Et comment comprendre que Dieu peut courber, lui aussi peut tordre? Je me suis dit, si j'ai pris un mauvais chemin et que derrière, je me dis, ok, maintenant je trace, je vais droit dans le mur, quoi. Et quelque part, je pense que des fois, Dieu recourbe, retord, c'est-à-dire nous dit, non, le monde tel que tu le veux, le monde avec tous tes projets, avec tes aspirations de puissance, d'ambition, etc., il y a un moment, il va te conduire dans quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Et donc, quelque part, c'est comme si Dieu retardait. Et vous voyez, on retrouve un peu, il me semble, ça. Parfois, Dieu courbe nos projets et parfois, c'est douloureux pour notre bien. Je ne dis pas qu'il faut le généraliser sur tout, mais parfois, il courbe le projet pour notre bien dans une perspective d'éternité. Vous voyez, quand Dieu, après la création, dit « Ah ben non, il ne faut plus qu'il soit dans le jardin. Il ne faut pas qu'il prenne l'arbre de vie de mort parce que sinon, ce serait une séparation éternelle. » Dernièrement, on a parlé de la tour de Babel et de ce projet où, à un moment donné, Dieu a arrêté parce qu'en fait, là où allait l'homme, c'était mauvais pour lui. Et donc, on peut trouver, il me semble, une articulation comme ça, qui est de dire que nous, on s'est écarté de ça et en fait, Dieu, ensuite, pour nous empêcher d'aller droit dans le mur, recourbe parfois. Et parfois, c'est difficile à comprendre et difficile à vivre, mais parce que Dieu a une perspective pour nous qui est le bien et Dieu voit à l'échelle de l'éternité. Et donc il est obligé de courber à court terme, de tordre à court terme, de bloquer à court terme parfois la marche du monde pour qu'elle revienne dans ce que lui a comme perspective. Alors du coup, si on essaye de... Ça, c'est plutôt une position de réflexion sur ce qu'est Dieu. Mais qu'est-ce que nous dit aussi l'Ecclésiaste? Qu'est-ce que nous dit la Bible sur... Mais du coup, nous, on vit comment avec Dieu dans ce monde tel qu'il est? Là encore, je ne prétends pas que ce soit exhaustif, mais je veux mettre trois choses en avant. Il me semble qu'il ressort, il y a la question de la reconnaissance, de l'humilité, de la crainte, et puis de l'action et de la joie. Voilà. D'abord, à propos de l'humilité et de la crainte. Ce que nous rappelle, ce que nous dit l'Ecclésiaste, c'est que on comprend pas tout, on connaît pas tout et on peut pas tout. Je reprends ce verset d'Ecclésiaste 3, l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Aussi, un verset qu'on a déjà lu tout à l'heure, ce qui est courbé ne peut pas se redresser, ce qui est compté. On ne peut pas tout. Il y a d'autres versets qui disent qu'on ne sait pas tout non plus. Donc ça, premièrement, voilà. On ne comprend pas tout, on ne connaît pas tout, on ne peut pas tout. Donc forcément, notre position ne peut être... On est appelé clairement à l'humilité. D'autant plus que face à cela, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et on est appelé à cette crainte. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. Et puis à la réciproque, il ne sera pas pour le méchant, il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. On est appelé à la crainte, et la crainte, notamment, ben, c'est là où ça retrouve un peu l'humilité ou de se repositionner aussi par rapport à ce qu'on peut dire, par rapport à ce qu'on peut avoir comme certitude sur nous-mêmes ou sur la marche des choses. Chapitre 4, veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alors évidemment, c'est pas l'idée qu'il ne faille pas parler à Dieu. Mais vous voyez bien, c'est cette idée de dire, approche-toi pour écouter, en fait. Et pas pour expliquer à Dieu... pourquoi il ne fait pas ce qu'il faut, comment moi je ferais, il faudrait faire un petit peu mieux parce que je vois comment, etc. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, donc on est appelé à cette humilité. Et du coup, voilà, j'essaye à chaque fois de formuler, on peut en garder l'idée que la crainte de Dieu, en tout cas, doit être un sentiment qui est plus fort que mon ambition ou plus fort que mes peurs dans la façon dont j'avance. Une deuxième chose qui ressort beaucoup, je trouve, c'est la reconnaissance. Donc, je relis là dans le chapitre 5. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part, de se réjouir au milieu de ce travail, c'est un cadeau de Dieu. Donc, tout nous vient de Dieu. Et on va revenir sur cette idée juste après de joie et de choses que Dieu met devant nous, mais se rappeler que ces joies-là sont un cadeau, une bénédiction de Dieu. Et donc ça veut dire que ce n'est pas la rémunération de mon travail, seulement ce n'est pas la rémunération de mes efforts individuels ou collectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on est dans des sociétés, et on en touche aujourd'hui les limites avec le problème de toutes les ressources naturelles qu'on dégrade, parce qu'on n'y est pas arrivé sans rien, mais on a des sociétés qui ont fait des progrès incroyables pour lutter contre les famines, contre beaucoup de privations, pour se prémunir de toutes sortes de risques, etc. Et donc finalement, tout ce qu'on a fait est tellement... Il y a tellement de génie humain dans tout ce qu'on a fait, économique, technologique, etc., que forcément, en fait, quelque part, on le sait bien, c'est un thème qui est... Il y a cette... orgueil ou cette idée de dire bah, oui, mais j'ai ça parce que je le mérite bien, quoi. Et ça, c'est vrai au niveau collectif en tant que tel, mais c'est aussi très vrai au niveau individuel, quoi. Dire ouais, mais j'ai quand même bien bossé, quoi. Donc là, ma semaine de vacances, mon bon repas, tout ça, voilà, quoi. Je ne suis pas arrivé sans rien, et voilà. Et donc, enfin, c'est assez basique, mais c'est tellement important, je pense, de nous dire bah, c'est un cadeau de Dieu. Parce que finalement, sinon, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu serais? Si je n'étais pas là. Et puis la troisième chose qui est importante, et c'est pour ça que je trouve que ce livre n'est pas un livre où les pensées de l'Ecclésiaste n'ont pas des pensées qui nous amènent soit à se recroqueviller, soit à plus rien faire, ou à condamner systématiquement tout ce qui est activité humaine, c'est que bah, ce n'est pas ce qui nous est dit. Donc, je lis dans le chapitre 9, va manger ton pain dans la joie, boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais, qu'à tout moment tes habits soient blancs, que lui ne mente pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est la part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts là où tu vas. Alors, je pense qu'il y a un peu plusieurs lectures, mais vraiment, il y a cette première lecture, de dire, mais il y a des choses qui sont devant toi, que ce soit des choses de joyeuses, de l'activité aussi, des relations. Tout ça est mis et donné par Dieu devant nous. Et Dieu nous dit, bah, vas-y, quoi. Vas-y et sois joyeux là-dedans, parce que Dieu prend plaisir aussi à ça, parce que Dieu nous a aussi créés pour ça. Et là, on pourrait dire, bah, c'est un peu ambivalent, parce que pendant toute la durée de ta vie sans consistance, ou toute fumeuse, mais moi, je pense, c'est un peu cette idée de dire, bah, d'abord, ça peut être un peu ironique. Je t'ai dit que c'était sans consistance et fumeux, mais en fait, regarde, Dieu te donne des choses là, concrètes, à côté, à vivre en fait. Et donc, pour moi, c'est une importance un peu particulière accordée à ce qui est notre portée immédiate. Notre travail, nos conjoints, nos amis, voilà. Et ça a un peu du sens. Et par ailleurs, c'est l'idée, je trouve, de dire que c'est en conscience, tu n'as pas la main sur tout, mais il y a des choses sur lesquelles tu as la main. Et ça, vas-y et profites-en. Et tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Là, il y a l'idée de dire, on n'est pas fataliste, on n'est pas misérabiliste, quoi. Donc, il y a une notion, je trouve, d'engagement aussi. Et d'engagement et de joie, parce que Dieu nous a mis ça. Donc, j'essaie de le formuler comme ça, de dire, le fait d'être réaliste sur la vanité de l'ambition humaine ne signifie pas être résigné et triste. Dieu m'appelle, enfin ce que j'entends quand je dis ça, c'est que Dieu m'appelle aussi à être énergique, à être ambitieux, à être joyeux là où je suis, là où il me place, plutôt que dans mes rêves de grandeur ou dans ce qui pourrait être. Vous savez, ce que ça, voilà, je suis assez fort pour ça, de dire, voilà, ah bah, dans tel projet ou dans tel truc, je pourrais faire ça, je pourrais faire plein de choses, je serais très très bien, je serais. Mais en fait, est-ce que tu mets de l'ambition, est-ce que tu mets de l'ambition, de la joie dans ce que Dieu t'a donné à côté de toi? Et ben, vous voyez, je trouve que c'est plutôt à ça. Placez bien vos efforts et votre ambition. En fait, enfin, ça m'a frappé en réfléchissant à ça. Et puis, par ailleurs, d'ailleurs, ces deux états d'esprit, c'est-à-dire, on a parlé de la crainte de Dieu, de l'humilité, puis aussi de la joie, de l'engagement, ils se retrouvent, ils se combinent en fait. Et il y a notamment quelque chose. Alors, je disais que j'étais sur un message un peu de vieux, mais il y a un passage spécialement, alors en plus qui est souvent dit, hein, qui est spécifique pour les plus jeunes dans l'Ecclésiaste. Hein. C'est au chapitre 11, et donc au chapitre 11 et au verset 9, je ne l'ai pas noté là, mais je vous le lis. Alors, jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc je répète, réjouis-toi, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. On se dit, bah, c'est super, hein, et après, cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, je dis, oula, ouais, donc pareil, c'est vas-y, mais attention. Et je pense que c'est pas exactement comme ça, que c'est la même logique qui est de dire, mais oui, Dieu est maître de tout. Donc, à un moment donné, c'est Dieu qui appréciera la portée de quelque chose, sa valeur, etc. Et Dieu t'appellera en jugement. Et du coup, on va faire le lien aussi avec la dernière partie, parce que oui, tu dois avoir cette crainte de Dieu dans ce que tu fais, dans tes projets, dans tes ambitions, dans tes aspirations. Mais en même temps, ça ne veut pas dire recroque-vis-toi, ça veut dire, voilà, marche, suivant les voies de ton cœur, les regards de tes yeux, livre ton cœur à la joie, réjouis-toi. Donc, si avant mon dernier point qui sera un peu concluant et une ouverture et un peu une conclusion, si j'espère, sur le constat, j'espère vous avoir convaincu que le constat de ce livre, c'est pas un constat fataliste, cynique, triste, mais c'est un constat qui porte un regard lucide et parfois douloureux sur la frustration du monde et qui du coup nous appelle à le vivre sous le regard de Dieu, donc avec humilité et reconnaissance, avec engagement dans ce que Dieu nous appelle à vivre, sans être finalement aspiré par des trajectoires qu'on nous vend. Et qui sont des trajectoires qui cherchent beaucoup de détours et souvent fumeux. Et il nous appelle à le vivre dans la crainte de Dieu qui est le juge de toutes choses. Alors du coup, on pourrait aussi être pris d'un peu de vertige par rapport à ça, en se demandant comment être à la hauteur de cette crainte et ce jugement aussi auquel Dieu nous appellera. On peut aussi se demander pourquoi quand même Dieu laisse cet environnement de frustration. Ça rejoint, hein, qu'est-ce qui est courbé, est-ce que Dieu a courbé, c'est toujours cette question. Et du coup, on peut aussi alors se rappeler que la révélation de Dieu, elle est progressive, que l'on a passé beaucoup de temps sur ce livre de l'Ecclésiaste, que je pense il est parfois, je pense, un peu caricaturé, et que il y a énormément de sagesse de Dieu dedans, mais En même temps, la Bible ne s'arrête pas à l'Ecclésiaste, le plan de Dieu ne s'arrête pas à la sagesse. Et donc, je voulais, pour finir, dans un dernier point, donner voilà, quelques éléments sur cette idée que en gros, refaire le constat de l'Ecclésiaste à la lumière de l'Évangile et mettre en avant que la croix est une réponse à la frustration du monde. Ce constat que fait l'Ecclésiaste, on le retrouve un petit peu, hein, j'ai pensé, alors c'est pas exactement pareil, mais dans, peut-être vous avez en tête dans Philippiens chapitre 3, c'est Paul, alors c'est plutôt sous l'angle de la justice vis-à-vis de Dieu, mais il pense à toutes les choses qu'il a très bien faites, hein, toutes ses connaissances, tout son statut social, etc. Dans Philippiens 3, il dit « Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Vous voyez, on a un peu le même, cette idée de dire qu'il y avait des choses qui étaient des gains, et puis en fait, j'ai considéré qu'elles n'avaient pas de valeur. Et là, Paul rajoute, il dit pourquoi ? Parce qu'en fait, il met une perspective à ça. C'est parce qu'il les voit à travers Christ et à travers ce qu'il veut devenir avec Christ. Et donc, la croix est une réponse aux frustrations du monde. On a parlé de ces frustrations d'injustice, de la mort. On a parlé de ces joies toujours incomplètes ou un peu fumeuses, de cette connaissance qui est imparfaite. Vous voyez que la croix est une réponse à chaque fois. La croix est une réponse à l'injustice. Parce que c'est Dieu qui prend en charge, d'abord, l'exigence de justice, celle que je n'aurais jamais faite. Dieu la prend pour me déclarer juste. Il redonne du sens à la justice. Okay ? Et puis aussi, quand même, Dieu il réaffirme à terme que tout et tous seront jugés à la mesure de leur acte et à la mesure de l'acceptation de la croix, justement, du sang de Christ comme substitut. Et là, on revient à cette perspective d'éternité, mais dire, il y aura quelque chose qui sera jugé, et à la fois, je t'offre quelque chose pour ne pas être perdu au moment de ce jugement. Donc la croix est une réponse à cela. La croix, c'est une réponse à la mort. Avec la résurrection de Jésus, Dieu met fin à côté tellement absurde, tellement frustrant de la mort comme fin d'existence. Il remet sa relation avec l'homme dans une perspective d'éternité, à travers cette question de la résurrection. Donc, la croix répond à cette frustration de la mort. Elle y répond de manière complète. Ça ne veut pas dire qu'elle répond à toutes les difficultés liées à la séparation aujourd'hui. Je reviendrai sur le fait que tout n'est pas achevé, mais voyez bien qu'il y a une réponse. La croix, c'est aussi une ouverture à la vraie joie. On voit que dans l'Ecclésiaste, il y a cette ambivalence. Il y a des choses qui sont joyeuses et en même temps, à un moment donné, on a l'impression que plus rien n'a de... que cette joie n'a plus de sens et qu'elle est complètement démonétisée. Et en fait, la croix, c'est une ouverture à la vraie joie, c'est une réflexion aussi. Parce qu'à la croix, on a les plus grandes souffrances, les plus grandes injustices et elle débouche sur la plus grande joie, qui est la joie de la réconciliation. Et on a ce passage à cause de la joie qui était devant lui. Donc la croix c'est une réponse à cette frustration d'une joie incomplète parce que Dieu vise oui une joie parfaite. Et la croix c'est une ouverture aussi à la vraie connaissance. Certains dit mais j'ai la sagesse, j'ai tout regardé et à la fin quoi? Et quelque part et ça c'est un thème aussi qui dans les épîtres sera beaucoup, c'est d'opposer la sagesse humaine et la sagesse de Dieu, et la sagesse de Dieu elle est à la croix, pourquoi ? Parce que Dieu se révèle en Jésus, puis par son esprit en nous pour ôter le voile, il ôte le voile, et je trouve qu'on voit bien Salomon, on a vraiment l'impression qu'il dit, j'ai ce voile là, je cherche, mais à un moment donné je suis pris. Donc voilà, il y a sans doute, on pourrait beaucoup développer ça, hein, mais cette idée que la croix est une réponse aux frustrations du monde. C'est important aussi pour dire qu'en tant que chrétien, du coup, on n'a pas juste à être accablé par un constat réaliste et négatif sur le monde, en fait. Parce que Dieu nous donne une autre perspective, il nous demande de vivre une autre perspective. Par contre, aussi, cette perspective qu'offre la croix, cette réponse, c'est de nouveau dans une perspective qui est une perspective d'éternité, qui a toujours été celle de Dieu, et qui explique aussi beaucoup de décalage entre sa vision et notre perception. On a lu dans Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses belles en son temps, et j'ai trouvé fort de le mettre en relation avec cette petite expression que j'aime beaucoup, Jésus est venu au moment voulu. Au moment voulu. Voilà, toutes choses belles en son temps, et au moment voulu, Jésus est venu. Dieu maîtrise le temps, et il y a la frustration de l'Ecclésiaste avant, mais Dieu avait déjà en tête à ce moment-là que Jésus viendrait, en fait, il viendrait répondre. Mais voilà, il maîtrise le temps, et donc la croix, elle intervient aussi dans cette faculté de Dieu qui est de dérouler un projet dans une perspective d'éternité historique. Perspective d'éternité aussi parce que cette œuvre à la croix, elle est à la fois parfaite, définitive, mais son achèvement, en partie, est encore à venir. C'est pour ça que, du coup, je vous dis la croix est une réponse à l'injustice, je vous dis la croix c'est la joie, mais en même temps, le constat de l'Ecclésiaste, il marche très bien aujourd'hui. Et parce que, l'achèvement concret de ça, sa matérialisation dans nos vies, sur terre, entre les hommes, on sait qu'elle est pas encore là. Dieu a encore ses étapes pour qu'un jour, complètement, l'injustice est disparue, que la joie soit complète, que la connaissance soit parfaite quand on sera avec lui. Et donc du coup et la Bible là-dessus est très cache, hein, j'ai remis le passage dans Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, par conséquent ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Et si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. C'est extrêmement lourd. C'est de dire, je dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment de dire qu'on peut pas, on peut pas vouloir comprendre ou défendre complètement le projet de Dieu pour nous si on n'élargit pas la focale à l'éternité. C'est pas ça passe pas en fait, ça marche pas. C'est vrai pour la souffrance, c'est vrai pour quand il nous dit qu'on est parfait, c'est vrai même pour la victoire sur Satan dont on sait qu'elle est complète mais qu'on voit pas. C'est vrai pour la justice et les injustices dont on a parlé, voilà. Donc, cette perspective-là, elle est à la fois, le fait de le dire, ça rend pas la chose plus facile, hein. Ça rend pas la chose plus invitante à vivre, mais de plus en plus, je me dis, c'est tellement, tellement important, comme garde-fou, en fait, à deux choses, comme garde-fou aux erreurs ou comme garde-fou aux doutes. Si on veut tout ramener, en fait, à ce qui se passe, ici et maintenant, comprendre le monde complètement, vouloir trouver des solutions dans nos sociétés, dans notre temps, dans notre tout ça, moi j'ai l'impression que en fait ça va pas marcher. Donc soit on va tordre la réalité, on va dire non mais en fait les choses sont pas si mauvaises que ça, etc. Donc on va tordre la réalité pour que ça passe, quoi. Soit on va tordre les enseignements de Dieu, hein, crois Dieu et puis tu vas gagner plein d'argent parce que de toute façon Dieu a plein de bénédictions. Enfin voilà, donc ça, voilà. Soit si on fait ni l'un ni l'autre, si on tord pas la réalité ou si on tord pas les enseignements de Dieu, on va douter. On va se dire mais comment ça se fait que je crois en Dieu bon, puissant, etc. Et qu'est-ce qui se passe, quoi ? Le constat de l'Ecclésiaste, il marche toujours. Il y a eu la croix et pourtant c'est toujours là. Donc on va douter. Donc à la fois d'un point de vue un peu défensif, entre guillemets, c'est vraiment important de se dire, même si c'est pas évident, c'est pas facile de dire, mais je ramène cette focale et je me dis qu'il y a des choses qui vont se régler, que Dieu voit à l'échelle de l'éternité et pas à l'échelle de ma vie ou de la vie de la vie de l'humanité, entre guillemets, au sens sur Terre, quoi. Et ça, c'est aussi une ressource, hein, c'est aussi une ressource, c'est aussi une espérance, c'est pas seulement défensif. Beaucoup de choses, mais par exemple, voilà, de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, c'est poussière, c'est fumée, nous dit. Vous porterez aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Vous étiez corruptible, vous serez incorruptible. Donc c'est aussi cette espérance-là. Et cette espérance aussi, et donc du coup je finis là-dessus finalement, dans 1 Corinthiens 15, donc vous voyez que c'est tout, ça se suit, hein, c'est tout le même passage de Paul autour de la résurrection. Et il termine un peu, en tout cas il fait une conclusion au verset 58. « Ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Votre travail n'est pas sans résultat. Vous voyez que dans l'Ecclésiaste, on a beaucoup l'idée de dire « Ton travail il va être sans résultat. » Il y a a beaucoup de fumée, il y a beaucoup de choses, ton travail va être sans résultat. Et on a lu au début, bah, à quoi bon tout ça? Et là, vous voyez que la façon dont je le comprends, c'est de dire que finalement, le projet de Dieu en Jésus, à la fois pour le monde et dans ma vie, il redonne du sens au monde et il redonne aussi du sens à ce qu'on peut faire pour y contribuer. Voilà. Et donc du coup, ça, dès aujourd'hui, et donc c'est un peu tout ce que dans l'Ecclésiaste, il y a aussi après des conseils, il y a aussi des choses pour dire, mais faites les choses à plusieurs, faites vivre vos relations, soyez ensemble. Il y a des choses comme ça de conseils, et plus largement, c'est de dire, bah, voilà, oui, il y a un problème de sens du monde, il y a un problème de vanité, de futilité, de fumée dans beaucoup de choses, mais Dieu est resté là, Dieu est là, Dieu a un projet, et dans ce projet-là, la croix a redonné du sens au monde, la croix a redonné du sens à ce qu'on peut faire pour y contribuer avec lui. Et donc oui, on peut faire des vœux de bonne année et des bonnes résolutions en étant réaliste par rapport à beaucoup de choses, mais en étant aussi porté par l'espérance de celui qui a un plan éternel pour nous d'amour et qui va vers quelque chose de beau et dans lequel il nous demande aussi de travailler, et d'un travail qui sera pas sans résultat, même si on le fait avec toutes nos limites.